Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de vous parler de l'âme et de ce qui se passe après la mort. Ceux qui croient posséder une âme immortelle devraient méditer un passage que l'on a tendance à oublier. Paul a écrit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Autrement dit, si la résurrection n'existe pas, alors il est grand temps de profiter de la vie et de ne pas s'occuper du reste. S'il n'y a aucune résurrection, que sommes-nous venus faire sur la terre? Il n'y a aucun but à la vie. Pourquoi ces combats, ces sacrifices, ces souffrances? Pensez-vous que Paul tiendrait pareil propos si nos chers disparus étaient déjà près du Seigneur? S'il avait lui-même la certitude d'y aller aussi après avoir rendu le dernier soupir? La Bible fait mention de trois résurrections. Nous allons donc les examiner les unes après les autres. La première est celle des justes. Lisons ce que Paul en dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce texte démontre que personne parmi les morts n'est près du Seigneur. Il s'agit de la première résurrection, celle de ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont convertis, ne vivant plus dans le péché qui est la transgression de la loi. Après leur baptême, lors de l'imposition des mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, cette puissance que Dieu ne donne qu'à ceux qui lui obéissent. C'est le Saint-Esprit, cette puissance, cette pensée qui émane de Dieu qui a ressuscité le Christ et qui ressuscitera ceux qui ont vécu dans l'observance des lois et des commandements. Vouloir simplement donner son cœur au Seigneur, cela n'a aucune signification selon la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que la vie d'un être humain est alimentée par son sang. Le sang est synonyme de vie. C'est pourquoi la Bible n'hésite pas à donner la définition suivante. Car l'âme, autrement dit la vie, de la chair est dans le sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. En gardant cette définition en mémoire, nous pouvons mieux comprendre deux passages qui nous sont donnés par l'apôtre Jean. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Nous avons vu que l'âme de toute chair est son sang. Souvenez-vous que le sang des taureaux offert en sacrifice devait être répandu au pied de l'autel. Les âmes, le sang que Jean voit dans sa vision, apparaissent être sous l'autel, tout comme les prières des saints sont symbolisées par du parfum. Le sang des martyrs des siècles passés, ce sang offert en sacrifice à Dieu, apparaît être sous l'autel, et les cris du sang de ces martyrs montent vers Dieu pour réclamer vengeance. Ces cris sont symboliques. Ils sont à rapprocher à ce que Dieu avait dit à Caïn, « La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. » Il s'agit ici encore d'une image symbolique. Nous savons tous que le sang ne crie pas. Ces martyrs, ces saints qui sont morts en Christ, ne sont pas au ciel, ils sont dans la terre, sans pensée ni œuvre, et cela sera jusqu'à l'avènement du Seigneur, comme Paul l'a confirmé. Gardons tout ceci en mémoire, lisons un autre passage. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Remarquez que ces âmes que Jean voit dans sa vision sont mortes, puisqu'elles reviennent à la vie. Sautons la première partie du verset 5, qui est une parenthèse dans ce texte, comme nous le constaterons bientôt. Et nous achevons la lecture, c'est la première résurrection. S'il y a une première résurrection, il y en a au moins une seconde. Jean écrit encore, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La seconde mort, c'est la mort éternelle, comme nous allons le voir un peu plus tard. Par conséquent, si la mort éternelle n'a plus de pouvoir sur les saints, c'est parce qu'ils ressusciteront à la vie éternelle, avec un corps spirituel, plein de force et glorieux. La première résurrection est cette meilleure résurrection dont Paul fait mention dans Hébreux 11, verset 35. Passons maintenant à la seconde résurrection. Rappelons-nous que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça n'a jamais été le cas pour tous les hommes, tant dans le passé qu'aujourd'hui. L'apôtre Pierre, en parlant de Jésus, a ajouté « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nombreux furent ceux qui, dans le passé, n'entendirent point parler du Christ. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui le véritable Jésus, celui qui n'est pas venu abolir la loi de son Père, qui est resté 72 heures dans le tombeau, qui n'a jamais transféré le jour du repos du samedi au dimanche. Jésus a lui-même affirmé, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ont-ils tous été enseignés de Dieu? Absolument pas. Si c'était le cas, il n'y aurait pas toutes ces diverses religions qui existent dans le monde depuis si longtemps. Il n'y aurait pas tant de religions chrétiennes professant des doctrines si différentes les unes des autres et en contradiction avec la Bible. Mais un jour viendra où tous connaîtront cette vérité si simple, si lumineuse, indiscutable et tranchante. Dans Apocalypse 20, nous avons vu que ceux qui participeront à la première résurrection reviendront à la vie au début du millénaire. Mais souvenez-vous, nous avons laissé de côté une sorte de parenthèse se situant au début du verset 5. Lisons-la. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. En écrivant les autres morts, Jean confirme que ces âmes, comme celles du verset 4, sont des âmes mortes. Elles ne sont donc pas immortelles, comme nous vous l'avons déjà démontré. Mais à la différence de ceux qui auront participé à la première résurrection, qui aura lieu, elle, au début du millénaire, ces personnes reviendront à une vie physique, au cours de cette seconde résurrection. Pourquoi? Parce qu'il faut que tous, absolument tous les êtres humains puissent être jugés sur les mêmes bases, sur les mêmes normes, sur les mêmes lois et sur les mêmes commandements. Dieu ne fait exception de personne. Personne ne pourra jamais lui faire le moindre reproche justifié. Jean écrit : Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ces livres qui sont ouverts sont tous ceux qui composent la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament compris, de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont enfin ouverts à la compréhension de tous les ressuscités qui seront jugés par ces livres selon leurs œuvres qui devront être en conformité avec les commandements et les lois divines. Quant à l'autre livre, il s'agit du livre de vie mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures. Ces gens n'ont jamais eu la connaissance du vrai Dieu ni de la vérité. Voilà pourquoi ils n'ont jamais été en cours de jugement. Mais à partir de ce moment-là, ils seront sans excuse. C'est là la grande justice de Dieu qui ne peut avoir deux poids et deux mesures. Il veut juger tous les hommes d'une manière équitable, et personne ne pourra invoquer l'ignorance de la loi et des Écritures. Dans cette multitude, nous retrouverons des êtres chers. Nous trouverons tous ceux à qui le Christ parlait en parabole pour qu'ils ne puissent comprendre. Nous trouverons aussi tous ceux qui croyaient bien à tort être chrétiens alors qu'ils n'avaient jamais cessé de vivre dans le péché, de transgresser la loi. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ils seront jugés selon ce qu'ils accompliront à partir de ce moment-là, au cours d'une seconde vie physique. Après quoi, et comprenez bien ceci car c'est très important, après quoi viendra soit la récompense, ou la condamnation, la vie éternelle ou la mort éternelle. Après cette période qui durera 100 ans selon Ésaïe 65, ce sera la troisième résurrection pour la seconde mort, une mort définitive réservée aux méchants, aux irréductibles qui auront refusé de se soumettre à Dieu et à sa parole, de demander le pardon à Dieu et de se repentir. C'est ce qu'explique la parabole du mauvais riche et Lazare.